Vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer, la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, nous allons parler d'une idée reçue sur la maladie d'Alzheimer qui dit qu'elle serait héréditaire. C'est faux. Moins d'1% des cas indiquent que la maladie est liée à une cause génétique, une situation qui est donc très rare, mais qui existe. Notre invité pour cette émission, Dr David Vallon, neurologue au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche de Rouen. Bonjour docteur.
Bonjour à vous et bonjour à tous.
Alors pour commencer cette émission, première question importante, pourquoi pense-t-on que la maladie d'Alzheimer est héréditaire ?
La principale raison pour laquelle on pense qu'elle est héréditaire, c'est parce qu'il y a souvent une agrégation, c'est-à-dire plusieurs cas, dans une même famille. Et donc, comme il existe des formes authentiquement héréditaires, et on y reviendra, et qu'il existe également des situations qui ne sont pas liées à la génétique, eh bien on pense que tout ça est la même chose, et donc il y a énormément de formes héréditaires, ce qui n'est pas le cas.
Cela vient peut-être aussi du fait que l'on ne sait pas vraiment comment la maladie apparaît. D'ailleurs, quelles en sont les causes exactes ? Peut-on répondre aujourd'hui à ce genre de questions ?
Non, malheureusement, dans la majorité des cas, on ne peut pas répondre sur quelle est la cause exacte. Il y a uniquement pour les formes avec mutation, les formes héréditaires, où là, on peut dire quelle est la cause, précisément. Mais pour l'immense majorité, les 99,9% des cas, eh bien non, on n'a pas de précision exacte sur la cause. On a des pistes, mais pas des précisions.
Pour mettre fin aux idées reçues sur la part d'hérédité concernant la maladie d'Alzheimer, quand elle touche plusieurs membres d'une même famille, à quoi est-ce dû et quelle est la part d'hérédité malgré tout là-dedans ?
Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Le premier cas de figure, c'est celui des malades jeunes. Et par jeune, on entend très jeune. La définition d'un malade jeune, c'est un début des signes avant 65 ans. Mais dans les formes héréditaires, ça peut être beaucoup, beaucoup plus jeune. Il y a à peu près 50% des cas qui démarrent avant 50 ans. Et puis, ça peut démarrer même à 25, 30 ans. Donc, ça, ce sont des formes particulières où, dans lesquelles il y a une mutation et une seule qui cause la maladie. On reviendra après un petit peu sur comment ça peut se passer dans ces familles, mais c'est très particulier, très rare. On estime qu'il y a à peu près 1000 patients en France, à peu près 300 familles. Et donc, si on compare ça aux 1 million de patients avec une maladie d'Alzheimer, on n'est pas du tout dans la même proportion. Dans les autres cas de figure, donc plus tardifs, mais pas nécessairement, ça peut être quand même des malades jeunes, eh bien, il y a probablement des facteurs de risque. Facteurs de risque génétiques, facteurs de risque environnementaux. Les environnementaux, c'est très difficile à étudier. Alors, il y a des pistes. On parle d'infection RPS, on parle aussi de réserve cognitive, on parle de capacité cognitive intrinsèque. Bon, ça c'est l'environnement, comment on a vécu sa vie. Et puis il y a les facteurs de risque génétiques. Donc là on est à nouveau sur le plan génétique, mais on n'est pas dans les mutations. On est dans une situation qui contribue au risque de développer la maladie. Et donc c'est totalement différent, parce que là, ces facteurs de risque génétiques n'expliquent pas à eux seuls pourquoi la maladie s'est développée.
Alors je le disais, il y a moins de 0,1% de tous les patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui sont concernés par cette forme héréditaire. Pour autant, quand c'est le cas, comment le savoir ? Est-ce qu'il existe par exemple des tests à effectuer ?
Alors oui, on peut le savoir, mais pas comme ça, juste en se disant un matin, tiens, j'ai des antécédents dans ma famille, allez, je vais tester le gène pour voir si c'est le cas. En France, la loi de bioéthique est très claire là-dessus. On peut faire des analyses chez un individu qui se plaint de rien, donc asymptomatique, dès lors qu'il appartient à une famille pour laquelle une mutation a été identifiée. Et c'est valable pour pas mal de maladies. La maladie d'Alzheimer en fait partie. Et donc, dans cette situation où la famille est déjà en connaissance d'une mutation identifiée chez un parent, à ce moment-là, oui, les enfants, les frères et sœurs, et les branches même un peu plus à distance, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle le conseil génétique, c'est-à-dire d'abord comprendre quel est le risque génétique que j'encours avec si je suis porteur, parce qu'au moment où on démarre le conseil génétique, on ne connaît pas son statut. Et puis une fois qu'on a compris qu'est-ce que ça veut dire, quel est le risque, comment on le représente, comment il se chiffre, à ce moment-là, on peut, dans un processus qui dure plusieurs mois, suivre un conseil pour aller jusqu'au diagnostic présymptomatique. Mais là, on voit bien que c'est uniquement les cas des familles héréditaires dans lesquelles on est à 0,1%. Et si jamais, ce qui arrive parfois, eh bien, on a l'impression que ça pourrait répondre à cette définition que, eh bien, il y a plusieurs personnes malades dans la même famille et que les âges de début sont vraiment jeunes, 45, 50 ans, et qu'il n'y a aucun prélèvement génétique de fait. À ce moment-là, pour le moment en France, on ne peut pas déterminer à un individu son risque parce qu'on ne peut pas screener comme ça plusieurs gènes. Parce que ça reviendrait à se dire, bah, autant screener les gènes d'Alzheimer, puis les gènes du cancer, puis les... Et en rentrant dans un schéma éthique qui est un peu particulier, qui pour l'instant est une ligne rouge que la France ne franchit pas.
Alors une fois que l'on a dit tout cela, David Vallon, qu'est-ce que cela veut dire pour la recherche ? Qu'est-ce que ces constatations apportent concrètement ?
C'est même, au contraire, une opportunité pour faire avancer la recherche. Si on revient sur les formes héréditaires, donc les formes très rares, mais qui sont présentes en France, hein, on en suit plusieurs familles, eh bien cela permet de proposer à ces familles, puisqu'on sait que dès lors qu'ils sont porteurs, l'individu, dès lors qu'il est porteur, il développera les signes, à peu près au même âge que son proche parent, eh bien ça lui permet de proposer, de participer à de la recherche thérapeutique, préventive, donc traduction, recevoir un médicament injectable par exemple, qui a pour but d'empêcher les lésions de la maladie de se développer, avant que les signes apparaissent, et voir si ce médicament retarde, voire annule, l'effet de la maladie. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle dans plusieurs centres en France, et au sein d'un consortium international, qui s'appelle DIAN-TU, et donc du coup, on essaie de mettre en place ces solutions thérapeutiques préventives. Ça, c'est le cas de figure particulier des formes héréditaires. Dans les cas non héréditaires, donc ceux avec les facteurs de risque, eh bien, ce que nous apportent les facteurs de risque, c'est un éclairage sur la possibilité que certaines voies métaboliques, certaines voies physiologiques de la maladie soient perturbées, ou de la maladie ou de quelqu'un qui a un organisme normal, eh bien, soient perturbées par ces facteurs de risque génétiques. Et donc, ça offre des pistes potentielles pour de nouveaux traitements. Donc, c'est pas utile les facteurs de risque pour le moment à l'échelle de l'individu. Par contre, connaître l'existence d'un maximum de facteurs de risque pour essayer de comprendre ce qui se passe, ça a de plus en plus de sens pour développer des médicaments.
Et c'est déjà porteur d'espoir. Alors, dernière question, pour les familles qui nous écoutent justement et qui se posent des questions sur la maladie, que leur dire si elles ont des soupçons sur leur état ou celui d'un proche ?
Alors, toujours déjà déterminer si on est concerné par la maladie ou pas. Donc, si on se plaint de sa mémoire, qu'on ne sait pas trop, qu'on se pose des questions, j'invite toujours à consulter dans les centres mémoire. Donc, il y a des centres mémoire maintenant sur l'ensemble du territoire national. Il y a les CM2R auxquels j'appartiens, qui ont un rôle de recours, mais et donc qui sont moins nombreux, à peu près 24-25. Mais par contre, les centres de consultation mémoire sont partout, et donc il y a probablement à moins de 20 minutes de route pour tout concitoyen la possibilité de faire une consultation. Et puis, de déterminer s'il y a des arguments pour un trouble cognitif, puis si ce trouble cognitif pourrait être lié à une maladie d'Alzheimer. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a la question de se dire, oui, moi je sais que je me plains de rien, mais par contre, j'ai quand même de grosses inquiétudes d'être concerné par une forme génétique. Et bien, dans ces cas-là, c'est de surtout inviter à ce que les personnes qui ont des troubles cognitifs, donc si c'est une tante, si c'est des grands-parents, etc., aillent faire la consultation par eux-mêmes pour avoir le diagnostic qui les concerne, pour qu'ensuite on puisse lancer derrière les investigations génétiques si elles ont lieu d'être faites. C'est-à-dire que si en amont, les patients développent des symptômes, meurent de leur maladie, et qu'à aucun moment donné, la prise de sang génétique n'a été réalisée, et là pour le coup, elle ne nécessite pas un conseil génétique, hein, c'est le neurologue, le psychiatre ou le gériatre qui en charge le patient qui peut tout à fait le prescrire, et bien si personne n'a fait la prise de sang, bien on ne peut pas aller plus loin.
Merci beaucoup, docteur David Vallon, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission.
Merci à vous.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez réagir et poser vos questions sur l'espace commentaire de la radio ou sur la page Facebook de l'association. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.